Bunker, épisode spécial, je sais combien de Frédéric.
Bonjour, bienvenue.
Comment vas-tu?
Très bien.
Parfait. Aujourd'hui, on va commencer une courte série, mais quand même une série, parce qu'il y a quand même plusieurs volets très intéressants dans lesquels on va découper, sur l'intelligence artificielle. On va commencer par le premier épisode, celui-ci, par une forme de mise en bouche, d'introduction à qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment c'est et un peu les facettes de sécurité associées à ce genre d'éléments-là, comment on peut naviguer dans cet environnement-là, puis on va creuser dans les épisodes suivants pour aller plus loin.
Tout à fait. Je pense qu'on aura matière à échanger effectivement sur le sujet.
Oui, c'est très, un sujet très passionnant.
Donc, effectivement, l'idée hein, aujourd'hui, ça va être de se poser les questions de quoi est-ce qu'on va parler, hein, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Je vais pas donner 50 définitions différentes d'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a la différence entre machine learning, donc apprentissage automatique, et intelligence artificielle. Voilà, il y a énormément de débats. Moi, je vais donner un petit peu ce qui est ma définition. Hein, l'intelligence artificielle, après tout, un peu par opposition justement à l'apprentissage automatique ou le machine learning. Autrefois, c'est vrai que l'IA, moi je me souviens quand j'étais jeune, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, c'était dans les jeux vidéo, pas beaucoup. Je me souviens, il y avait vraiment « Ah, je joue contre l'IA, tiens, je me suis fait avoir par l'IA, etc. » ce qui était en fait un ensemble de règles à cette époque-là dans les jeux vidéo. Les personnages qui étaient pilotés par le jeu finalement obéissaient à de simples règles quelque part. Moi, c'est un petit peu ce que je mets aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, on a tendance à le sortir de l'intelligence artificielle, ces définitions-là. On est plus dans tout ce qui est système expert, etc. Après, la différence entre intelligence artificielle et apprentissage automatique. Pour moi, l'intelligence artificielle est plutôt un sous-ensemble de l'apprentissage automatique, parce qu'on fait de l'apprentissage automatique quand on fait de l'intelligence artificielle. Et souvent, une définition assez régulièrement admise, c'est que intelligence artificielle égale réseau de neurones. Voilà, pour à peu près simplifier. Et même réseau de neurones profond. Voilà, c'est assez souvent ça. Et du coup, c'est un sous-ensemble effectivement de l'apprentissage automatique dans lequel on va retrouver aussi plein d'autres techniques, tout ce qui va être les forêts aléatoires, toutes ces choses-là, d'autres algorithmes où en gros, hein, l'apprentissage automatique, qu'est-ce que c'est? C'est on a des données en entrée et des sorties et on va entraîner quelque chose, un truc au milieu, qui, lorsqu'il a une donnée d'entrée, donne la bonne sortie, et donc on va l'entraîner sur les données dont on connaît la valeur de sortie, évidemment. Et ensuite, le but, c'est qu'il soit capable de généraliser à des données qu'il n'a jamais vues en entraînement. Donc ça, il y a plein de techniques qui existent, dont le réseau de neurones, hein, qui rentre du coup dans cette partie-là. Et généralement, moi, voilà, pour simplifier, je me dis intelligence artificielle égale réseau de neurones, parce que c'est à peu près ça. En tout cas, c'est ma définition.
Oui, puis c'est le modèle le plus classique là, qu'on a. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est que la théorie des réseaux de neurones, elle date de beaucoup d'années aussi. Et là, parce que informatiquement parlant, c'est récent, ou semble relativement récent, c'est que la capacité computationnelle est très récente à la capacité de faire des réseaux neuronaux de bonne qualité qui permet d'aller jusqu'à faire du machine learning ou faire les choses qu'on voit maintenant, mais si on remonte 10 ans, il y a 10 ans, c'était impossible d'avoir des machines qui étaient suffisamment performantes et pas trop énergivores également pour arriver à ce genre de choses qu'on voit ou prouesses qu'on voit maintenant. Nous.
Mais effectivement, moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Donc, j'avais 10-15 ans. Donc, c'était il y a 25 ans, hein, un peu plus. J'ai des souvenirs. En fait, j'avais, en l'occurrence, un cousin qui était un peu plus âgé que moi, qui travaillait, je crois, dans l'automobile, il me semble. Et en fait, qui travaillait sur des réseaux de neurones pour optimiser tout ce qui était mélange carburant, etc., tous ces sujets-là. Donc, ça veut dire que ça fait quand même très, très longtemps. Hein. Donc, c'est des réseaux de neurones très simples. Et je sais pas pourquoi je me souviens. Je pense que parce que ça m'avait frappé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment est-ce qu'on peut faire des réseaux de neurones en informatique? Moi, je commençais à m'intéresser à l'informatique. Et donc, ça existait déjà. Et ça existait aussi dans un autre domaine qui était, les premiers usages, quelque part, en production de manière intensive de réseaux de neurones, c'était dans le domaine bancaire pour tout ce qui est lecture de chèques. Ce qui est chèque de banque. Donc, pour lire l'écriture manuscrite sur les chèques, avec les chiffres et l'écriture en lettres, il y avait déjà, à l'époque, c'était d'ailleurs les premiers réseaux convolutionnels, qui sont encore aujourd'hui extrêmement utilisés, c'est pour tout ce qui est traitement d'image. Et donc ça, c'était là, on parle de quelque chose il y a 20, entre 20 et 30 ans. Pour moi, tu vois, t'as parlé de 10 ans à peu près. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a eu une révolution qui est aux alentours de l'année 2012. Donc il y a effectivement il y a 11-12 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2012, il s'est passé deux choses à peu près en même temps. Il y a eu, la première chose, c'est ce dont tu as parlé, la puissance de calcul. Notamment grâce aux cartes graphiques. Hein, ce qui était donc on appelait ça carte graphique à l'époque. Maintenant, c'est GPU, donc General Purpose Unit. Et on appelait ça carte graphique parce que c'était utilisé justement par les jeux vidéo, dans les jeux vidéo. Et pourquoi est-ce que c'était utilisé beaucoup dans les jeux vidéo? Parce que c'était des processeurs massivement parallèles. Et dans le jeu vidéo, en fait, on passe notre temps à faire du calcul massivement parallèle, du type j'ai une texture A et j'ai une texture B, et je veux les additionner en multipliant A fois 0,5 et B fois 0,8, par exemple. Hop, je prends ces deux textures-là, je les additionne en appliquant un facteur dessus, et ça me fait une nouvelle texture. Et donc, les deux textures, c'était par exemple l'éclairage et la texture de mon mur, par exemple. Donc, pour ça, on avait besoin de processeurs massivement parallèles. Et en fait, en 2012, Nvidia notamment, c'est le moment où il y a eu une forme de maturité dans l'environnement de développement fait par Nvidia pour ses processeurs graphiques, et où ils ont sorti quelque part cette capacité-là dédiée à l'affichage graphique, ils l'ont sorti et ils l'ont rendu accessible à tout un chacun pour faire de la programmation. Donc à partir de ça, donc c'est ce qu'on appelle CUDA, hein, l'environnement CUDA, on pouvait, il y a quand même des petites subtilités hein, quand on veut programmer comme ça, hein, mais à peu de choses près, dans mon programme, en fait, je peux à un moment me dire, bah tiens, ces deux tableaux-là, je vais les additionner et pouf, je vais utiliser ma carte graphique et je vais les additionner de manière massivement parallèle. Donc ça, c'est en 2012. Et il y a une autre chose en 2012, et c'est pas pour le coup c'est pas la puissance de calcul. Et c'est lié à finalement, souvent on demande de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire de l'intelligence artificielle. On a besoin de deux choses. On a besoin de puissance de calcul, et on a besoin de données. Et en fait, en 2012, il y a eu, première chose, puissance de calcul, on vient d'en parler, et deuxième chose, des données. Et en l'occurrence, c'était un ensemble de données, un dataset, d'images, c'était ImageNet, je crois, qui était, en fait, c'était 1 million d'images qui avaient été annotées manuellement, alors je crois que c'est l'université de Stanford, je crois, qui avait fait faire ça, donc par des êtres humains, 1 million d'images dans 1000 catégories. Donc il y avait 1000 images de 1000 catégories. Donc il y avait 1000 images de voitures, 1000 images de chats, 1000 images de chiens, etc. sur 1000 catégories différentes. Et ça aussi c'était une révolution parce que c'était la première fois qu'on avait ce jeu de données public, utilisable par tout le monde, et qui permettait du coup aux équipes aussi de se comparer, de travailler chacune sur des données, et puis de dire après ça a été assez normalisé, hein, ça va être les ensembles d'entraînement sur lesquels tout le monde va s'entraîner, ça va être les ensembles de tests sur lesquels on va comparer chacun nos résultats, etc. Et en fait, du coup, ça, il y a eu un développement exponentiel, vraiment à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que moi je me souviens, quand je me suis formé à l'intelligence artificielle, c'était en 2016, on parlait beaucoup d'images. Et c'était vraiment le premier domaine sur lequel il y a eu énormément, énormément de choses de faites. C'était tout ce qui était analyse d'image. Donc on verra aujourd'hui, c'est beaucoup plus générique. D'ailleurs, on va parler un peu cyber hein, quand même aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup dans les images, notamment parce qu'il y avait eu ce jeu de données-là qui avait été publié et sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès. Donc, plein de modèles différents, etc. Plein de nouvelles techniques, à la fois d'architecture de modèles, mais aussi de techniques d'apprentissage. Parce que ça, c'est aussi très important. Hein. On sait aujourd'hui entraîner de manière très, très efficace des modèles immenses. À l'époque, sur les mêmes architectures, il y a 10 ans, on avait disposé de la même puissance de calcul et des mêmes données, on aurait été incapable d'entraîner ces modèles. Donc 2012, donc là, on est à peu près à 10-12 ans. Et c'est vrai que dans un certain nombre de domaines, on a commencé récemment, je dirais, à atteindre une forme de palier. En 2022, justement, il y a pas mal de gens qui commençaient à dire, est-ce qu'on n'a pas atteint une petite pause où là, on a réussi à peu près à faire ce qu'on veut faire, on le fait bien, mais on fera pas beaucoup mieux prochainement, etc. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats hein, dans les années 2021-2022 là-dessus. Et puis, là, il y a quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, qui nous est arrivé fin 2022. Fin 2022, il y a une petite entreprise Bon, une petite entreprise était 700 quand même, je crois, à l'époque, 700 ou 1000, je sais plus. Dans une grosse entreprise quand même, qui a été très très forte parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, bon, vous avez compris, je parle de OpenAI hein, et de ChatGPT. Hein, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont augmenté un peu la capacité technique par rapport à ce que d'autres avaient fait. Donc, ils ont fait un peu mieux que les autres. Dans certains domaines, ils ont fait aussi beaucoup mieux, mais enfin voilà, c'était un peu mieux que les autres. Ce qui a beaucoup vexé d'ailleurs dans le milieu, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit mais ChatGPT, oui, bon, ok, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, c'est juste une évolution. Alors oui, c'est juste une évolution, mais c'est le principe même d'une révolution pour le coup, pour moi, c'est que une révolution, c'est parfois un incrément. Alors parfois c'est un incrément très très fort, ça arrive, mais parfois c'est un incrément graduel, mais qui permet de changer de paradigme. C'est-à-dire qui permet de faire des choses qui étaient vraiment pas envisageables avant. Et en fait, c'est un peu ça qu'a fait ChatGPT, enfin qu'a fait OpenAI. Et ils ont fait une autre chose très bien, c'est le marketing. Là, évidemment. C'est-à-dire que
oui, ben, c'est là où on jouait, c'est d'avoir eu l'audace de sortir ces modèles-là publiquement. Parce qu'il y en a plusieurs, puis tu parles de vexé. Google a été probablement énormément vexé parce que ont beaucoup de recherches de ce côté-là. Ils ont d'excellents chercheurs. Mais ils n'ont pas eu l'audace de sorte de rendre disponible ce modèle-là. On pourra débattre peut-être dans 5 ou 10 ans si c'était un bon choix. Mais à l'heure actuelle, d'un point de vue positionnement et de justement de révolution, OpenAI a créé une révolution. On a ramené dans la tête des gens de l'existence de ces éléments-là, qui avant n'étaient que des éléments de recommandation dans Amazon, dans Netflix, ou ainsi de suite. Maintenant, ben là, on a un objet à quel on peut discuter de façon plus ou moins, mais quand même suffisamment pour que ça soit intéressant et ça soit crédible.
Oui, et puis c'est vrai, et c'est là aussi où il y a un côté révolution, parce qu'il y a eu un palier de franchi, c'est que en fait tout le monde utilisait l'intelligence artificielle avant. Quand on faisait une requête sur Google, par exemple, il y avait déjà des moteurs de deep learning qui fonctionnaient derrière. Ils prennent nos mots, ils en font ce qu'on appelle des embeddings, etc. Ils comparent ça à des bases de données de tous les mots. C'est pour ça que déjà avant, si je tape un mot, et ben parfois il va me répondre avec d'autres mots, et en fait c'est cela que j'attendais, parce que c'est juste que je savais plus bien l'écrire, etc. Donc il y avait déjà de l'intelligence artificielle qu'on utilisait tous les jours, mais là les gens se sont rendus compte, c'est-à-dire que d'un coup ils ont eu un nouvel outil qui n'était pas une évolution incrémentale, parce que Google finalement s'est amélioré de manière incrémentale depuis 15-20 ans. Là c'était un nouvel outil, ils se sont dit waouh, génial, en fait on peut faire tout ça avec un LLM. Donc c'était effectivement une vraie révolution. Alors ce qui est assez amusant aussi, c'est que moi, je me souviens quand je me suis formé à l'intelligence artificielle en 2016, ou même quand on a créé la société en 2019, par exemple, il y avait un côté où il fallait absolument parler d'intelligence artificielle. Si on crée une société, si on veut vendre, se vendre, etc., il fallait absolument mettre de l'IA dedans parce que tout le monde attendait que ça, etc., au niveau des investisseurs, au niveau même des clients, tout ça. Et puis même, un peu plus tôt, quand je m'étais formé, c'était déjà, j'ai envie de dire, j'avais déjà le sentiment que c'était en haut de la vague. Finalement, tout le monde ne parlait que de ça. J'avais presque l'impression d'être en retard en arrivant en 2016, moi, sur l'intelligence artificielle. Et alors, je ne pensais pas qu'on pourrait en parler encore plus. Et vraiment, c'est ça qui m'a frappé. Alors, fin 2022, donc novembre 2022, quand ChatGPT est sorti, c'est que depuis un an, c'est juste complètement dingue. Enfin, on en parle, mais encore 10 fois plus que ouais, j'irais il y a 2 ans.
C'est peut-être la différence, parce que tu sais, comme toi, ça fait longtemps que je sais qu'on en a un peu partout. Ça s'est incrusté partout, mais ça n'a jamais été publicisé. Puis là, on est vraiment rendu dans l'état grand public, parce que dans les présentations que je fais actuellement pour démystifier ça, ben, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Le ChatGPT n'a pas amené le AI dans le. C'était déjà là avant. On l'utilisait déjà avant en sécurité. On l'a déjà utilisé dans d'autres éléments de bien, bien avant. C'est juste que là, il faut distinguer ce qui vient de nous apparaître de tout ce qui était avant aussi. Parce que ça fait longtemps qu'on roule quand même avec du AI dans nos choses. Mais c'est comme tu disais, c'est le coup marketing. Ils se sont mis en avant-plan, et ce n'est plus juste les spécialistes comme toi puis moi ou les investisseurs qui veulent voir ce mot-clé-là. Pour eux, c'est important parce que c'est gage d'avenir. Là, c'est mes parents. Là, c'est autre chose. Là, on est complètement ailleurs. Là, on est dans un autre niveau de discussion. Et là, c'est entre autres, dans mon cas, de démystifier avec mes parents, par exemple, le fonctionnement du AI. Ben là, ben, c'est ça.
Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment ce, le, et c'est aussi parce que je pense que le palier technologique a été franchi, où quelqu'un qui l'utilise, qui est pas du tout habitué, même au côté technique, etc., peut vraiment l'utiliser en disant oui, j'ai des bons résultats. C'est-à-dire que, avant, c'était, enfin, moi, j'avais utilisé des fois l'IA pour de la génération de code, etc. Et oui, bah, en fait, il y avait toutes les trois lignes, il y avait une faute même de syntaxe, enfin, voilà, des choses qui sont évidentes pour un humain. Et en fait, c'était extrêmement frustrant. Là, c'est vrai qu'avec ChatGPT, on a enlevé ce côté frustrant et qui fait que, enfin, je sais plus combien il y a eu d'utilisateurs. Enfin, on parle même plus. Enfin, là, ils ont passé les 100 millions il y a un moment. Et c'est 100 millions de personnes qui peuvent l'utiliser en se disant, bah, c'est utilisable et ça peut même m'apporter quelque chose dans mon métier, etc. Alors, clairement, après, ça a pas été sans lever un certain nombre de débats. Évidemment, je pense que depuis un an, on a quand même beaucoup débattu de ça. Notamment, il y a un débat que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est le fait que ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model, donc les grands modèles de langage, ce ne sont jamais que des perroquets. Alors, ce qu'il faut savoir, on revient un petit peu sur comment est-ce qu'on entraîne un modèle comme ça. On l'entraîne à prédire le caractère suivant. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on dit, voilà un texte, donc typiquement une question, puis même le début d'une réponse, par exemple, quel est le caractère suivant? Et donc, bah, il va dire, je sais pas, A, U, J, O, U, bah, voilà, ça va être au jour, puis après, il va dire, bah, OK, aujourd'hui, etc. Puis il va écrire les mots comme ça. Et puis ça va faire des phrases, ça va faire du texte, ça va être... Ouais, dans la pratique, c'est pas vraiment des caractères, c'est ce qu'on appelle des tokens, mais enfin, globalement, c'est la même chose. Et donc, on leur a vraiment appris ça. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle ils ont été entraînés, c'est produire le caractère suivant sur des exemples de texte qu'on leur a fournis. Et du coup, bah là, oui, il y a un côté perroquet. C'est-à-dire que la seule chose qu'on leur a appris à faire, c'est à répéter quelque chose qu'ils ont déjà lu, finalement. Et on verra d'ailleurs qu'ils le font très bien. Mais du coup, moi, la question que je pose souvent, c'est si je demande au modèle, enfin à ChatGPT, de m'expliquer la relativité générale avec les mots de Shakespeare, il va le faire. Ça va être très joli à lire, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Je vous invite à faire ce genre d'exercice. Pourtant, il l'a jamais vu en entraînement. Enfin, alors, sauf si sur Internet, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça, mais a priori, je crois pas. Mais voilà, après, on peut imaginer un tas d'exemples. Et donc, pour moi, quelque part, les large language models, les ChatGPT et autres, en fait, je les vois comme des modèles qui sont capables de répéter quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. C'est un peu bizarre, hein, dans l'idée. C'est-à-dire que on leur a appris à répéter, finalement, à produire des choses. Et ils ont été tellement bons, ils ont vu tellement de choses qu'ils ont généralisé, et c'est ça qu'on demande à ces algorithmes-là. Et en fait, comme on fait, en fait, c'est un perroquet à qui on a ajouté la capacité de généralisation, qui est justement le truc qui est assez génial dans l'intelligence artificielle. Et du coup, ils sont capables de répéter des choses qu'ils n'ont jamais entendues parce qu'ils sortent quelque part de leur domaine d'apprentissage. Et ça, ouais, bah, c'est là où on a quelque chose de fondamentalement différent.
Ouais, c'est ce que j'appelle remixer. C'est-à-dire, ils prennent deux contenus différents et ils font un troisième contenu de ces deux contenus-là d'origine, mais dans un concept, puis c'est comme tu le dis, c'est essentiellement aussi un perroquet. On y a juste appris ben, quel mot ou quelle lettre va suivre telle autre lettre. Donc, techniquement, ils ne savent pas le concept, mais ils sont capables, sont les places à nous remixer ce genre d'éléments-là. Et c'est... Ce que j'aime beaucoup du AI génératif ou du LLM, c'est cette capacité-là à remixer en dehors. Puis c'est aussi là où je crois que les humains sont très fascinés par cet élément-là. Ils se laissent berner par la relative fonction mathématique que le LLM a et non là, sa capacité à comprendre réellement et donc de créer quelque chose de nouveau au sens où humainement on va créer quelque chose de nouveau. Là, c'est un peu différent à mon sens.
Et c'est intéressant que tu parles de fonctions mathématiques parce que c'est pareil. Après, voilà, il y a aussi des débats sur est-ce que les LLM sont capables de comprendre quelque chose, voire même d'avoir des consciences, etc. Alors que ce ne sont que de pures fonctions mathématiques. C'est vraiment une fonction qui, en fonction d'une entrée, donne le caractère suivant. Et pourtant, la sortie, caractère après caractère, est hyper complexe. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que on peut un peu rapprocher ça même à ce que c'est que l'humanité. Hein. Finalement, dans le monde biologique, dans le monde plutôt de l'intelligence artificielle, il y a un concept qu'on appelle la LOS. La LOS, c'est l'objectif. C'est-à-dire que c'est ce qu'on donne comme objectif à un modèle d'intelligence artificielle. On lui dit, voilà une entrée, voilà une sortie. Toi, ton objectif, c'est d'optimiser ta sortie avec justement ce qu'on appelle une loss, qui va être en gros, qu'est-ce que c'est qu'une loss, hein? C'est comme un enseignement où si la personne répond bon, on lui donne un sucre, et puis s'il répond pas bon, on tape dessus, hein. En gros, c'est un petit peu ça la loss en apprentissage automatique. Et donc, en fait, c'est là qu'on se dit que c'est assez fou. C'est-à-dire qu'on a développé un truc qui devient pseudo-intelligent, potentiellement même enfin doté de plein de capacités, etc., alors qu'on lui a juste dit, on lui a tapé dessus, en fait, quand il n'avait pas bon. Et c'est là que je rapproche ça, justement, au monde biologique. Quelle est notre loss, j'ai envie de dire? Quelle est la loss de l'animal? Globalement, c'est sa survie. Alors, en allant un petit peu plus loin, c'est à la fois la survie, et je crois, si on va un peu plus dans le détail, c'est l'absence de souffrance. En gros, c'est manger, ne pas souffrir, et je crois qu'il y en a un troisième que j'ai oublié. Mais en gros, à peu de choses près.
La continuité de la race est nécessaire, justement, la continuité de l'espèce.
Exactement.
Est inscrite très profondément.
Voilà. Et en fait, la biologie, c'est, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que les animaux, le règne animal, tout ce qui est la sélection naturelle, etc., ça répond à des objectifs qui sont extrêmement simples. Et pourtant, ça a produit l'humain, au final. Donc, qu'est-ce qui, d'un point de vue conceptuel, empêcherait une loss extrêmement simple qu'on a utilisée dans un apprentissage automatique à en faire quelque chose d'intelligent? Et je ne vais pas répondre à la question. Je m'en garderai bien.
puis si on veut s'amuser un peu plus loin, ce qui permet de comparer de façon peut-être un peu plus juste l'intelligence artificielle à l'humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Là, je fais une bifurcation sur la crise existentielle ou la peur existentielle du AI. C'est que l'humain, à 30 watts, parce que c'est à peu près comment la quantité d'énergie que fonctionne le cerveau humain à 30 watts, l'intelligence artificielle n'est pas capable de donner un contenu aussi sophistiqué qu'un humain à 30 watts de fonctionnement.
C'est sûr.
C'est beaucoup plus dispendieux pour arriver à ce qui arrive présentement. Donc, on se pense que la machine va remplacer. Non, parce que de point de vue énergétique, ça ne fait aucun sens à l'heure actuelle ce que la machine doit consommer. Un, pour apprendre. Deux, pour réussir à donner les réponses par rapport à un humain qui opère à 30 watts de façon permanente. C'est-à-dire il y a juste les laptops les plus optimisés qu'on va réussir à faire fonctionner ces affaires-là. Et les performances à 30 watts sont pas super intéressantes pour un usage quotidien.
Non, c'est clair. Enfin, effectivement, il y a une optimisation... C'est une forme d'optimisation de l'énergie par l'être humain, par le cerveau, qui est quand même hyper importante. Enfin, quand on avait, je crois que c'était Deep Blue qui avait battu Garry Kasparov aux échecs, c'est pareil, hein, il était bien au-delà de 30 watts à l'époque. Hein, et pareil avec Lee Sedol sur le Go. On est sur des puissances de calcul qui sont assez considérables. Mais c'est vrai, alors, moi je mets toujours un bémol à ça, hein, la capacité de calcul de nos machines, etc., augmente aussi avec le temps. Ce qu'on sait faire aujourd'hui à 1 mégawatt, quelque part, on saura probablement dans 20 ans le faire à 30 watts, de la même manière que, effectivement, ce que tu disais, un ordinateur portable hyper optimisé à 30 watts aussi, aujourd'hui, il fallait, il y a 20-30 ans, quasiment une salle entière qui consommait peut-être son mégawatt. Donc, voilà. C'est vrai que pour moi, tout ça, c'est un peu, beaucoup une histoire de temps, avant d'avoir des échelles comme ça qui arrivent. Et c'est vrai que là, tu posais la question sur remplacer l'humain, etc. Dans les débats, pareil, qu'on va ouvrir sans refermer, parce que pour laisser un peu de réflexion, il y a les dangers liés à l'IA. Hein, voilà. Est-ce que l'IA est dangereuse? Est-ce que l'IA va se retourner contre nous et décider d'éteindre l'humanité parce qu'on est mauvais pour la planète ou je ne sais quoi? Ça, bon, là, on est encore aujourd'hui à l'état de débat philosophique, hein, quand même, heureusement, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Depuis un an, il y a beaucoup plus de gens qui réfléchissent à la question, donc on pourra voir aussi ce que ça donnera. Ce qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, c'est que il y a énormément de gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, beaucoup avec des intérêts différents. Il y a, dans certains pays vont avoir une politique très ouverte sur le logiciel libre, open source, etc., avec des volontés de développer des modèles ouverts, accessibles à tout le monde, des choses là. On a des pays où ça va être plutôt financé pour le coup, soit par le privé, soit même par le monde militaire, soit par les deux. Donc à voir avec quel objectif. Il y a eu récemment, hein, justement, pas mal de débats sur l'armée, sur est-ce qu'on peut donner un pouvoir de décision à une intelligence artificielle sur un terrain, sur un conflit. Comme c'est d'ailleurs comme au volant d'une voiture, hein, Le jour où on a un accident de voiture avec une voiture autonome qui est responsable, est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est l'assureur? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture? Est-ce que c'est le piéton qui est traversé devant? Voilà, je pense que ça rajoute énormément de paramètres. Et après, faut aussi voir où. C'est-à-dire que moi, quand j'avais travaillé sur l'intelligence artificielle, au début, hein, quand je m'étais formé, j'avais regardé un peu tous les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut être exploitée. Et par exemple, il va y avoir tout ce qui est le premier truc, c'est tout ce qui est traitement d'image. Tout ce qui est traitement du signal. Donc traitement du signal, derrière, on peut imaginer les sonars, les radars, toutes ces choses-là. Donc on peut se dire, bah, le jour où où on veut améliorer la capacité d'un missile qui veut suivre une cible, bah, c'est vrai que l'évolution naturelle aujourd'hui, c'est de se dire, bah, on va mettre un moteur d'intelligence artificielle à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait le jour où on fait ça? Est-ce qu'on est juste dans une amélioration de ce qu'on faisait avant? C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà des algorithmes qui faisaient que le missile suivait une cible mobile. Là, on se dit, on met l'intelligence artificielle qui fait la même chose. Bon, est-ce qu'il y a un vrai danger, entre guillemets, philosophique, etc.?
Mais je reviens à ce que tu disais au début. Ce n'est qu'un algorithme. L'intelligence artificielle n'est qu'un algorithme. Donc, s'il y avait déjà un algorithme, d'ici un algorithme plus sophistiqué, et il est où la ligne? Et c'est d'autant plus difficile là, du moment, parce que là, on le qualifie d'intelligence artificielle ou de machine learning ou peu importe. Mais la réalité, c'est que ce n'est qu'un algorithme qui est juste plus sophistiqué que l'algorithme qui l'a précédé. Donc, ça devient philosophiquement très mou, où on peut, ou très, moi, en anglais, là, c'est très boueux comme débat, parce qu'on ne sait pas où est la ligne. Puis, on est face à des acteurs qui sont deux pays, ne sont pas tous de la même bienveillance, disons.
Exactement. Et puis, le jour où on se dit, bon, bah, c'est. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est un algorithme qui va suivre une cible qui a déjà été désignée. On peut se dire, à la limite, c'est une évolution. Le jour où on se dit, c'est un drone, et en fait, le drone, il est capable de détecter une Jeep et de se dire, ça, c'est une cible, et là, il lance un missile. Bah, peut-être que là, effectivement, on a à ce moment-là passé la limite, mais à la limite, on pourrait se dire, bah non, mais en fait, on lui avait dit que c'était qu'une cible avant. Comme le missile, hein, on lui a dit quelle était sa cible. Là, on peut dire, mais non, le drone, en fait, il sait très bien. On lui a dit que c'était qu'une cible, on lui a décrit, et il a juste un algorithme, IA ou pas, qui sait dire ça, c'est ma cible, et du coup, il va larguer une bombe dessus. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Hein. ne me prenez pas pour un avocat de ces systèmes-là, parce que justement, en fait, voilà, à quel moment est-ce qu'on va mettre cette limite-là par rapport, et l'étape ultime étant, je sais pas, j'envoie une armée entièrement automatisée, et puis mon objectif, je dis, c'est éliminer les ennemis. Bon, ben voilà, là, finalement, j'ai juste passé... On pourrait se dire qu'on a juste passé une étape supplémentaire dans la partie automatisation, finalement, depuis le missile qui savait suivre une cible jusqu'à, bah, finalement, tu occupes-toi du champ de bataille. Quoi. Mais c'est sûr que ça veut dire qu'on lui laisse prendre un certain nombre de décisions qui aujourd'hui clairement sont plutôt dévolues à l'humain. Donc, sur le monde militaire, il y a clairement, je pense, énormément de débats, énormément de questions à se poser. Certains États avancent très très vite sur le sujet. Certains États, se posent pas énormément de questions. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. D'autres un peu plus. J'ai tendance à apprécier ceux qui se posent des questions sur ces débats-là, parce que ça peut effectivement changer pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a commencé à parler justement de tout ce qui est risque. Hein. Et on va parler justement aussi des risques cyber hein, par rapport aux IA. Justement, c'est quels sont les... À quel moment... Alors là, c'était à quel moment l'IA peut être dangereuse. Donc, c'est quand même un risque assez important. Mais il y a aussi tous les autres risques liés à l'usage de l'intelligence artificielle. Une des choses importantes qu'il faut garder toujours en tête avec l'intelligence artificielle, c'est que... Alors, je vais pas dire on pourra jamais, parce que j'aime pas dire on pourra jamais, parce que souvent, quand on dit ça, moi, je trouve que quelqu'un qui dit on ne pourra jamais, généralement, il a tort au bout d'un moment. Donc, je ne dirais pas on pourra jamais. Mais c'est très difficile de démontrer le bon fonctionnement d'une intelligence artificielle. Je pense, par exemple, au monde aéronautique. Dans l'aéronautique, il y a des normes qui sont extrêmement strictes, parce que il faut absolument démontrer que l'avion ne va pas aller au tapis. Donc dans les algorithmes, dans les commandes de vol, le jour où notamment Airbus hein, qui a été très très précurseur sur tout ce qui était numérisation des commandes de vol, ils ont dû prouver par des preuves mathématiques sur le logiciel que le logiciel était fonctionnel et que il allait transmettre correctement les commandes de vol depuis la manette du pilote jusqu'aux ailerons et compagnie. Parce qu'on impose hein, les règles l'imposent. Le jour où on se dit qu'on met de l'intelligence artificielle là-dedans, alors là, je souhaite bon courage. clairement. On avance énormément quand même sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de progrès qui sont faits sur démontrer justement.
Il y a beaucoup de recherches parce que c'est fait partie de l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Ça repose énormément sur la capacité de prévoir qu'est-ce qui en sort et comment l'expliquer le fonctionnement. Au même titre qu'on est capable d'anticiper jusqu'à un certain seuil le comportement des autres humains. Donc, on veut être dans la même zone de confort pour l'humain. Donc, de s'assurer qu'il n'y aura pas une aberration qu'on ne peut pas comprendre dans l'algorithme, puis il n'est pas exclu qu'on n'ait pas d'aberration, comme il y a des aberrations chez les humains, mais qu'en général, on est capable de repérer en somme toute assez bien. Là.
Oui, parce que c'est vrai que dans certains domaines, on peut pas se passer de ça, hein, finalement. Et puis, les algorithmes, enfin, j'ai envie de dire, c'est tellement génial. On parlait de justement d'analyse d'image, etc. La puissance est tellement forte par rapport à ce qui se faisait avant. La puissance au sens les capacités, hein, tout ce qu'on peut faire avec, c'est tellement beaucoup mieux quelque part que ce qui se faisait avant, que ce serait dommage de pouvoir s'en passer. Après, il y a des techniques, hein, par exemple, ce que j'ai déjà vu, c'est justement parfois en fait ça peut être très difficile de prendre la décision dans certains problèmes, mais c'est très difficile de prouver que c'est la bonne. Donc du coup, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir la solution du problème, et puis en fait, bah, juste avoir un algorithme à côté qui va vérifier que c'est la bonne solution du problème. Et si c'est pas la bonne, bah, on jette la solution et puis on trouve un autre moyen. Ou on lui demande d'en générer plusieurs, et on est capable de les classer, etc. Et du coup, bah, on est capable de dire, bah, voilà, c'est celle-là qui va être la bonne, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de moyens, mais assez peu qui vont rentrer à l'intérieur du moteur d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier risque. Il faut vraiment garder toujours en tête qu'elle peut se tromper. Le travail de celui qui va entraîner, faire le modèle, etc., c'est évidemment de minimiser ce risque au maximum, ce qui fait que parfois il peut être mais extrêmement, extrêmement, extrêmement faible quand même. Hein. Enfin, sur certaines choses, il va être très, très faible. Tant qu'on est dans un domaine, dans une utilisation normale. Après, il y a le problème de ce qu'on appelle les attaques adverses. C'est quelqu'un qui va volontairement vouloir faire prendre une mauvaise décision à un algorithme d'intelligence artificielle. Et là, effectivement, ça c'est un vrai défaut, hein, des intelligences artificielles, c'est qu'elles sont très susceptibles à ce risque-là. L'exemple de l'image d'un panda et on le met sur le truc et il nous dit c'est une théière, voilà, absolument aucun humain se fera avoir. Pourtant, on arrive à faire dire que l'image de panda, elle est à peu près n'importe quoi à une intelligence artificielle, par des modifications qui sont même imperceptibles à l'œil humain, et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on peut vraiment les berner complètement. Et donc, ça c'est un sujet qui est quand même assez important, tout ce qui est attaque adverse. On a un avantage en cyber, c'est que, parce que les gens me disent souvent ça, hein, voilà, vous faites de l'IA pour la détection en cyber, etc., qu'est-ce qui nous prouve qu'un adversaire peut pas contourner ça? J'ai envie de dire, on est en cyber, quoi. Enfin, en cyber, c'est notre métier, les attaques adverses. On n'a pas attendu les intelligences artificielles pour avoir des adversaires, quoi. Enfin, on n'est pas une voiture autonome. Oui, elle n'est pas dans le principe à essayer de se chercher. Enfin, elle cherche pas de base à se défendre d'une attaque adverse, parce que sur la route, il y en a quand même assez peu. J'ai envie de dire, en cyber, c'est il y a que ça.
Oui, c'est un monde de différence. Puis quand tu expliques ça, disons, aux ingénieurs qui sont peu importe dans leur champ de compétences. Quand il analyse, puis c'est justement comme ça qu'un ingénieur automobile, ben, il ne réfléchit jamais en version adverse parce que ça n'existe pas. Nous, en cyber, ça existe. Dans certains autres corps, en l'armée, par exemple, ça va exister. Ou c'est des notions où il y a quelqu'un qui volontairement veut briser ton système. Ceux qui construisent les ponts, par exemple, tu parlais d'automobile, mais les ponts, il n'y a pas de système qui est là pour briser le pont. Le pont, c'est prévisible. Le vent est prévisible, la gravité est prévisible, l'utilisation, la vibration, tout ça est prévisible, mathématiquement prouvé, c'est déjà fait, puis c'est bien. Mais quand on arrive, nous, en cyber, c'est là on a quelqu'un qui veut changer. Donc, il va changer la gravité, par exemple, juste pour emmerder. Il va changer la gravité, puis le pont, ben, il réagira pas de la même façon. Il va changer les vents, il va changer le climat, il va changer la façon que le pont est dans son environnement. Et c'est ça, là, en cyber. Nous, on est habitués de traiter avec des adversaires qui vont transformer le système en des façons qui n'étaient pas prévues pour ça.
Mais exactement. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Depuis le départ, en fait, il faut absolument que nos algorithmes soient résistants aux attaques adverses. Après, le principe même d'une attaque adverse, en cyber, avant ou après l'intelligence artificielle, Le fait est qu'il y a toujours des attaquants qui continuent à passer. Donc le fait est que même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui commence à beaucoup se développer en cyber, les attaquants continuent à passer. Hein, alors de moins en moins, mais ils sont aussi, ils progressent aussi. Donc voilà, ils continuent toujours à passer. Puis ça va continuer un petit moment, hein, je pense comme ça. Donc après, c'est à nous quand on fait un algorithme, mais du coup intelligence artificielle ou pas, de se dire, de faire l'évaluation, de dire qu'est-ce qui permet de le contourner, comment est-ce que nous on se prémunit. Il y a pas mal de techniques pour ça, c'est détecter les tentatives de contournement par exemple, ça c'est une technique qui marche généralement assez bien, et de se dire finalement, si quelqu'un essaye de me contourner, que je sache dire que c'est malveillant ou pas, c'est probablement que ça l'est en fait. C'est-à-dire que mon algo d'IA, je sais qu'il va pas marcher, mais je vois quelqu'un qui essaie de me contourner, c'est sans doute que c'est malveillant. Mais de la même manière que, par exemple, si je fais de l'exécution dynamique, ce qu'on appelle la sandbox, j'exécute un virus en exécution dynamique, et je vois qu'il essaye de savoir s'il est dans un environnement d'exécution dynamique, c'est sans doute qu'il est malveillant, parce que normalement, le logiciel fait pas ça. Sauf, moi je dis toujours, quand on a un logiciel qui fait des choses bizarres, c'est soit un jeu vidéo, soit un antivirus, soit un virus. Hein. C'est les trois gammes de trucs.
Notamment, pour l'avoir travaillé beaucoup dans ces environnements-là où on met des ADR en place, on met des systèmes en place de surveillance et de choses. Et c'est là qu'on constate que, franchement, les plus vieux logiciels utilisaient des manœuvres non documenté, étrange, ouais, qui lève des alarmes en fou. Donc, c'était dans le fonctionnement normal. Puis ça, c'est juste que le développeur qui l'a fait a décidé que c'était plus optimal comme ça. Mais il ne respecte aucun principe dans lequel on pourrait s'attendre ou de prévisibilité. J'en avais là, des logiciels qui, on a vu de façon massive à cause du confinement, puis les dehors, tout ça. Il levait plein d'alarmes parce qu'il allait toucher des fichiers que normalement, on ne devrait pas toucher. Fait que là, il allait écrire dans des fichiers, puis lui, c'était sa stratégie pour réussir à arriver au comportement voulu. Puis lui, il faisait ça comme ça, mais ce qui était hyper pas propre. Puis là, tu regardes ça, tu fais comme, ouais, mais pourquoi? Fait que là, on est pris comme ça, mais tu parles des jeux vidéo, entre autres, certains logiciels de sécurité, tu parlais d'antivirus, mais les logiciels de sécurité, en général, font des affaires étranges, pas tout le temps bien propres, ça lève des alarmes, ça brise tout, là.
Oui, c'est. Et puis après, il y a des langages, là on dévie du sujet des intelligences artificielles, mais il y a des langages qui sont juste abominables. Je sais que nous, on travaille par exemple pas mal sur la détection du PowerShell. Le PowerShell, en fait, il n'y a pas un PowerShell qui n'a pas l'air malveillant. De base, c'est fait pour faire des tâches d'administration déjà, donc ça se connecte de partout dans tous les sens. Ça ouvre des fichiers, enfin, c'est juste un ransomware, il ne fait pas plus. Après, il y a la difficulté aussi de savoir qu'est-ce que c'est. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'est-ce que c'est qu'un comportement malveillant. Finalement, dans énormément de cas, il y a plein de choses qui se veulent bienveillantes, mais qui ressemblent quand même énormément à des comportements malveillants. Et en PowerShell, je vous assure que ça arrive. Hein.
Une parenthèse là-dessus, puis là, c'est vrai, je l'ai vu, mais ensuite, je referme la parenthèse. Depuis les 6 derniers mois, à peu près au moment de l'enregistrement, on enregistre fin novembre, il a été remarqué que les adversaires étatiques vont utiliser ce qu'il y avait le LOLBIN, Living of the Land. Et justement, quand tu parles de PowerShell, c'est exactement ça. Fait que c'est les attaquants maintenant ont commencé à utiliser que des choses standards dans les systèmes qui viennent ajouter une douleur extrême à la détection. Fermeture de la parenthèse. On en reparlera dans une autre séquence. Mais quand tu parles de PowerShell, ça m'a fait vraiment penser à cet élément-là qui est d'une chose. Puis en plus, les personnes qui trament du PowerShell ne sont pas des développeurs de formation. Donc, ils font à peu près tout et n'importe quoi non standard et non prévisible.
Et petit clin d'œil pour la personne de mon équipe qui travaille en ce moment là-dessus, qui pleure tous les jours à se dire je sais pas, il pense qu'il vit dans l'enfer sur terre là en ce moment. Il se dit mais qu'ont fait les concepteurs de ce langage. Donc, petite pensée à toi. Je pense qu'il appréciera. Si on revient effectivement sur les risques liés à l'intelligence artificielle, pour moi il y a aussi un risque qui est important. Et ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut en être conscient. C'est tout ce qui est lié à la fuite d'informations par les modèles. Alors ça, qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple concret. On va repartir. J'aime bien mon exemple de l'autodirecteur. Autodirecteur de missiles, parce que je pense que c'est des choses sur lesquelles on va arriver, à mon avis, à des algorithmes d'intelligence artificielle. Autodirecteur de missiles ou radar ou choses comme ça. Ces trucs-là, on va les entraîner forcément sur des données à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va prendre des choses représentatives d'une cible, etc. Et puis on va vouloir entraîner le truc pour qu'il sache identifier les cibles, tout ça. Mais sauf que si vous parlez à peu près n'importe quelle armée du monde, un catalogue d'une signature thermique ou radar de à peu près n'importe quel équipement, les leurs ou ceux des autres d'ailleurs, c'est hautement confidentiel. Forcément. C'est-à-dire que tel pays ne veut pas que les autres aient les signatures radar et thermiques de ses équipements et ne veut pas non plus dire qu'il a les signatures radar et thermiques des autres et à quel point il les a, avec quel niveau de précision, etc., etc. Donc imaginez, vous prenez votre système, vous l'entraînez, et puis bah, votre missile tombe et il n'explose pas, par exemple. Ou bien vous exportez hein, votre missile à un pays à peu près ami, on va dire, et puis finalement il se trouve que plus tard il n'est plus ami, ou bien le missile tombe dans de mauvaises mains, etc. Bah, la question évidemment, hein, c'est est-ce que depuis le modèle qui va être embarqué dans le missile, on peut remonter aux données d'entraînement ? Et ça, en intelligence artificielle, bah oui. toujours pareil, dans une certaine mesure, évidemment. Il va toujours y avoir des limites. Moi, je réfléchis beaucoup sur les modèles d'intelligence artificielle en termes de capacité d'information. Un LLM, par exemple, je sais pas si on prend les récents, là, nous, on travaille sur des LLM qui font 4, 7 gigaoctets, par exemple. 7 gigaoctets, c'est l'attaque de base, et 4, une fois qu'ils ont été un peu réduits. En gros, de manière très très schématique, ça veut dire que ce modèle-là, en fait, ces valeurs-là, les gigaoctets-là, c'est tous les poids qu'il y a dans le modèle, donc c'est plein de nombres, enfin, c'est que des nombres, hein. Il n'y a pas un texte, il n'y a rien dedans. Mais ça représente un peu le volume d'informations qu'il est capable de stocker. À une particularité près, c'est qu'il est devenu un petit peu intelligent, le bonhomme. Et en fait, si on se dit, bah, ok, je vais lui apprendre des livres, et donc je vais lui mettre 100 gigas de livres, et donc de toute façon, il ne fait que 4 gigas, et donc il ne pourra pas les apprendre par cœur, eh bien, c'est faux. Parce que, justement, il va devenir un peu intelligent et il va pas retenir les mots les uns après les autres parce qu'il va connaître la grammaire. Il aura plus besoin de savoir ce que c'est qu'une phrase grammaire, une phrase grammaticalement correcte ou incorrecte. De la même manière, si vous l'entraînez sur des images, par exemple, il va pas retenir les images de fleurs. Ça, c'est un autre usage, hein, d'ailleurs, des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pour faire de la compression. On peut avoir des algorithmes d'intelligence artificielle de manière très, très schématique. En fait, ils vont prendre une image même de très haute définition et ils vont retenir. Ils vont dire, OK, il y a une fleur en haut à gauche, c'est un tournesol, elle est tournée vers la droite. Et puis, à sa droite, il y a une voiture bleue de telle marque, tel modèle, etc., orientée de telle manière. Et puis, en dessous, il y a une route qui va dans tel sens avec telle couleur. Toutes les informations que je viens de dire là, ça tient peut-être en 150 octets. Et pourtant, ça définit une image en haute définition. Donc, ce qu'il faut quand même voir, c'est que le principe même des réseaux de neurones, ça leur donne une capacité de compression d'informations qui est assez extraordinaire. Donc, attention, quand on réfléchit en termes de quantité d'informations, etc., théorie de l'information, quoi, de quelle quantité d'informations on a pu ingurgiter dans le modèle, ce qu'il faut voir, c'est que le modèle utilise cette capacité d'abstraction pour en utiliser beaucoup, enfin, pour en stocker beaucoup, beaucoup plus.
Ce qui veut dire que... Ben c'est ça, c'est il mémorise pas.
Exactement.
Et il fait juste comprendre le concept, si on veut, là, comme tu mentionnais. Et donc, de la compréhension, c'est minuscule, la compréhension. Ben ça, là, c'est, là, prenez, il comprend pas vraiment, mais son modèle mathématique lui fait comprendre en quelque sorte un certain nombre de choses. Puis là, on parle du LLM parce que c'est ce qui est très populaire ou le génératif. Mais la nature de l'entraînement va donner une intelligence particulière, soit spécialisée, soit plus générale. Mais de là va nécessairement cette intelligence-là, si on reste dans le même vocable. Ah, d'ailleurs, parenthèse, intelligence, parce que si on le prend en anglais, c'est le mot intelligence ne veut pas dire la même chose. On a fait une traduction directe en français. Fait que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du renseignement artificiel. Ouais. Si on le traduit de l'anglais de façon plus correcte. Mais bref, ferme-tu la parenthèse.
Oui, et effectivement, donc, comme tu dis, hein, c'est pas vraiment qu'il mémorise, c'est presque plus, j'ai envie de dire, qu'il retient. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, il va retenir l'information. Ce qui ne l'empêche pas, quand même, d'apprendre des choses par cœur. Et ça, c'est aussi des choses qui ont été prouvées hein, très souvent. Alors justement, comme tu disais tout à l'heure, hein, on est en novembre 2023 là, et on est au surlendemain d'une publication sur ce sujet-là justement, qui a commencé à faire un peu de bruit et qui va continuer à en faire, où des chercheurs en fait ont réussi à extraire des données pures, vraiment exactes, provenant du dataset, donc du jeu de données d'entraînement de ChatGPT. Donc, modèle auquel on n'a pas accès. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est la première fois qu'on arrive à faire ça de cette manière-là. Enfin, de manière publique, en tout cas. Hein. En fait, ils ont trouvé une technique qui fait, ils font un peu bugger le modèle. Moi, je le vois, je pense très souvent à l'épilepsie. Dans le cerveau humain, quand je pense au modèle de machine learning, enfin modèle d'IA, parce que pour moi l'épilepsie, je suis pas du tout neurologue, hein, et c'est peut-être aberrant ce que je dis, mais ça me permet de visualiser la chose. C'est un moment où le cerveau du patient, hein, qui subit ça en fait, part dans un mode qui est plus le mode normal. Il part un peu avec une forme de surcharge, une forme de saturation, voilà, plutôt une forme de saturation. C'est-à-dire que le cerveau devient saturé à un certain niveau, qui fait qu'il ne répond plus de manière cohérente et de manière logique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime bien avoir toujours cette idée-là en tête sur les modèles d'IA, parce que on peut atteindre des régimes de saturation parfois sur des modèles, et on les fait comporter de manière qu'ils n'auraient pas voulu. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu ça, quelque part. Ils le laissent vivre, etc., jusqu'à un moment où le modèle part un peu en vrille. Et en fait, il se met à réciter des passages entiers du dataset d'apprentissage. Donc là, il y a un problème de confidentialité de données et de savoir-faire pour la société porteuse du modèle, hein, évidemment. Mais accessoirement, on s'est aperçu d'autre chose grâce à cette publication-là. C'est que dans les données qu'il a régurgitées telles quelles, il y a de la donnée personnelle. Et là, il y a de la vraie donnée personnelle, enfin il y a plusieurs exemples, hein, qu'ils ont cités, donc sans doute sans le consentement de personne, et ça, là, c'est d'autres débats qui vont, à mon avis, s'ouvrir suite à cette publication-là, qui est à quel point, justement, le respect des données personnelles a été bien pris en compte, etc., concernant notamment OpenAI, mais je vais pas forcément aller dans ce débat-là, parce que là, non seulement ça nous emmènerait trop loin, et je pense qu'aujourd'hui, là, c'est très récent, hein, cette publication-là, donc on n'a pas encore assez d'éléments pour savoir s'il y a eu effectivement des données personnelles utilisées de manière inappropriée ou pas. Et donc ça, c'est quand même un risque important, tout ce qui est fuite de données personnelles. Et ouais, je pense qu'on va...
Ouais. Je vais aller un peu plus loin là-dessus, puis là, tu parles du modèle d'entraînement de base, mais il faut aussi savoir que dans le cas de OpenAI, et Bard le fait déjà d'ailleurs, depuis longtemps, c'est il continue à apprendre ce qu'on lui injecte actuellement. Et là est le danger, puis là, d'un point de vue là, de défensif, on ne doit pas, sur qu'est-ce qu'on met dedans va servir nécessairement à le réentraîner. Donc là, tu parlais de données personnelles. Si on diffuse, on dépose informations privilégiées ou personnelles ou peu importe dedans, il n'est pas exclu qu'elle soit réutilisée pour réapprendre. Donc, elle va être capable d'être régurgitée par une autre personne. On prend l'exemple qui a été publié avec Samsung, qu'un employé qui a mis beaucoup de code propriétaire de Samsung là-dedans, ben, il y a une capacité quelqu'un de faire revenir ce code-là d'une façon ou d'une autre. Alors, et donc, ça, d'avoir accès à l'intelligence, à la propriété de Samsung indirectement.
Alors ça, je l'ai beaucoup vu. J'ai eu beaucoup de publications sur Samsung, hein, sur ce sujet-là. J'ai jamais vu personne dire qu'effectivement, on arrivait à le récupérer. Hein. Notamment à cette époque-là. Moi, je mettais beaucoup de bémols là-dessus parce que je suis pas certain, je sais pas à quel point OpenAI utilise les données pour l'apprentissage. Justement, suite à ça, ils avaient dit non, on va pas les utiliser, etc.
À cette époque-là, non.
Et alors, au début, ils les utilisaient. Après, ils ont dit qu'ils les utiliseraient plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on est une entreprise et qu'on a un compte payant, ils vont pas les utiliser. Sinon, potentiellement, ils peuvent, etc.
Je crois pas à leurs paroles, dans tous les cas. Je suis pas mal sûr. D'une façon ou d'une autre, ils réutilisent une partie ou la totalité de ce
qu'on a. Après, ce que j'ai quand même beaucoup vu, c'est que ceux qui relayaient le fait que, à cause de ChatGPT, Samsung avait eu des fuites de données considérables, etc., j'ai vu beaucoup d'employés de Google relayer cette information-là. Ce qui m'a pas énormément surpris. Alors que bon, à mon avis, des données personnelles de Samsung ou autres qui ont été envoyées sur Gmail, je pense qu'il y en a eu aussi. Hein. C'est... voilà. Donc, le fait de fuiter une information confidentielle en utilisant un service web, parce que c'était un peu ça le sujet, c'était « Oh, c'est scandaleux, Samsung a fait fuiter des informations confidentielles en utilisant un service web qu'est ChatGPT en l'occurrence », c'est déjà arrivé, à mon avis, des millions de fois dans toutes les entreprises, via des Gmail, Outlook.com, etc., des Google Docs, tout ça, enfin, la donnée confidentielle d'entreprise, à mon avis, il y en a déjà partout. C'est juste une nouvelle manière de faire fuiter des données, hein, ChatGPT. Après, effectivement, s'il y a de l'entraînement dessus, là, ça peut devenir un nouveau problème.
Ouais, ben, de toute façon, la façon que je l'aborde, j'ultra simplifie la chose, c'est comme si on publiait sur Facebook ce qu'on met dans ChatGPT. Donc, si vous ne mettez pas ce qui est privé sur Facebook, donc, ne mettez-le pas dans ChatGPT. Sachant pas ce qu'ils font exactement avec, de toute façon.
Ouais, non, c'est exactement ça, effectivement. Après, il y a un autre risque lié à tout ce qui est intelligence artificielle, mais je pense qu'on va le garder pour la prochaine fois. Comme ça, on va pouvoir faire un peu de teasing. Ça va être tout ce qui va être lié aux fake news, génération de données, toutes ces choses-là. Là, on n'est plus dans le risque de l'intelligence artificielle en elle-même. On est dans les usages potentiels de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je vous propose que la prochaine fois, on évoque un peu ces sujets-là d'usage, et notamment les usages potentiellement offensifs. Et donc, tout ce qui va être autour des fake news, deepfake, etc. Je pense qu'on va encore avoir un petit peu de matière là-dessus.
Notamment, puis on va aller avec dans le volet offensif aussi, les biais, parce que les biais de l'apprentissage ont une conséquence. Bon, il y a des conséquences qui commencent à être documentées normalement au niveau de l'éthique, mais au niveau offensif, c'est du moment qu'on comprend le biais de la technologie. Puis tu parlais l'exemple qu'une image peut être prise pour une tailleur, un panda peut être pour une tailleur, est un exemple d'usage offensif qui peut être utilisé contre le AI, justement, pour le faire croire autre chose qui serait supposée. Et du moment qu'on connaît les biais, ça c'est un exemple de ça, c'était drôle parce que la pixelisation qui fait qu'il se trompe. Et de là, d'aller plus loin. Puis ça aussi, on va aborder ça la prochaine fois. Parce que là, on a largement débordé ce qu'on voulait faire. Là.
Voilà, donc c'est bon. Après, c'est un sujet, je pense, et effectivement, on a de quoi en parler pour un petit moment. Et voilà, le but d'aujourd'hui, c'était cette partie un peu introduction. C'est toujours difficile, effectivement, de parler d'intelligence artificielle sans parler des LLM, de ChatGPT, etc. Donc forcément, voilà, aussi alimenter ça d'anecdotes avec quelques sujets quand même pas mal liés à la cyber aussi, sur tous les risques, fuite de données, toutes ces choses-là. Et je pense que la prochaine fois, on pourra aller sur cette partie cyber-offensive et les risques liés plus aux usages finalement de l'intelligence artificielle.
Oui, qui devient un outil qui amplifie énormément, puis en même temps, puis ça va être bien d'en parler de comme ça, parce que beaucoup de, tant qu'à moi, de gens avec des épouvantails, qui se prennent avec leur épouvantail, c'est pas si pire que ça, c'est dans des cas d'usage très spécifiques. Puis c'est ça, c'est pas la fin du monde. Là. J'imagine que les compagnies qui ont des logiciels à vendre vont dire que c'est la fin du monde, mais la réalité, c'est pas tant la fin du monde que ça, l'arrivée de l'intelligence artificielle, autant pour les défensifs, parce qu'on va aborder aussi le volet défensif que l'offensif aussi. Je pense qu'on est juste à égalité, encore une fois. Le niveau augmente à la même vitesse des deux côtés. Là.
Oui, rassurez-vous, on parlera des deux. On parlera de l'offensif, mais aussi du défensif quand même. On essaiera de pas rester
très important. Excellent. Fait qu'on va conclure sur ça avant de commencer d'ouvrir une autre parenthèse qu'on va de la difficulté à fermer. Je te remercie énormément. C'est un sujet très passionnant. Je pense qu'on va avoir au minimum deux autres épisodes enregistrés, si pas plus, sur le sujet parce que clairement, ça soulève les passions et c'est très riche comme sujet. Merci.
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés sur cet épisode.